Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de commencer la semaine avec vous et Culture Média par ce beau temps. Au menu, médias et culture au sens large, tous les médias et toutes les formes de culture. Aujourd'hui, un roman sur la crise de la cinquantaine et une série qui revisite la banlieue. Notre casting, vous retrouverez évidemment Hélène Manarino et son portrait inattendu, mais avant cela, Charles Decamp pour son journal des médias, nos deux niçois qui mal y pensent, Bertrand Chameroy pour son écran de veille, puis Eva Rock pour son zapping du lendemain. L'infomédia, l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès qui n'en finit pas de faire couler de l'encre et déroulé de la pellicule. La preuve, M6 lui consacre une mini-série « Un homme ordinaire » avec Arnaud Ducret en tueur présumé. Nous serons avec Pierre Aknin, le réalisateur. Et puis, encore du beau monde, notre nouveau collègue sur Europe 1, Stéphane Bern, qui vient nous parler de Secrets d'Histoire. Ça revient ce soir sur France 3 avec Vauban en tête d'affiche. Il s'intéresse également à la maman de Vauban. Il a bien raison. Pourquoi je dis ça? Parce que la mère parfaite est une connasse. C'est pas moi qui l'écris, c'est le titre du livre de nos invités culture. Oui, c'est de la culture. Anne-Sophie et Marie-Aldine Girard, leurs bouquins se sont déjà vendus à plus de 2 millions d'exemplaires et on attend celui-ci justement. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h, Culture Média, c'est parti. Bonjour Charles Decamp.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Place au journal des médias, le sommaire du jour.
Un départ mouvementé dans les rangs du média, la polémique mignonne prend un tournant politique, Canal+ poursuit sa mue et l'amour revient dans le pré.
Et on commence par les audiences du week-end. Qu'est-ce que les Français ont d'abord regardé samedi à la télé?
Alors comme souvent, la première position du samedi s'est disputée entre France 3, qui a pris l'avantage sur l'ensemble du public, et TF1, qui s'est largement imposé sur les fameuses femmes responsables des achats de moins de 50 ans. France 3 a réuni 4,2 millions de téléspectateurs, soit 21,6% du public, avec la rediffusion de Meurtre en Lorraine, téléfilm porté par Stéphane Bern.
Stéphane Bern qui sera notre invité dans quelques minutes.
Voilà, en face, TF1 pointe à 3,7 millions de téléspectateurs avec la suite de The Voice Kids. Le télécrochet affiche une part d'audience de 21,5% du public et un très bon 28,8% sur les femmes de moins de 50 ans. Derrière, en revanche, Fort Boyard est à la peine maintenant que l'été est fini. Le jeu signe pour la deuxième fois, de la deuxième semaine consécutive, pardon, son plus faible score de la saison, 2,2 millions de personnes, soit 12,2% du public et 17% des femmes de moins de 50 ans.
Ça, c'était pour les audiences de samedi soir et hier soir.
Alors hier soir, c'est TF1 qui a pris la première place avec la première diffusion de La Ch'ti de famille, un joli carton pour TF1. La comédie de et avec Danny Boone a été suivie par 6,8 millions de personnes. Ah ouais. C'est 31% du public et 37% des femmes. France 2 s'en sort pas mal derrière avec un autre film inédit, américain cette fois. Pentagon Papers de Steven Spielberg a réuni 3,5 millions de téléspectateurs pour 15,5% de part d'audience. Et c'est France 3 qui prend la troisième position avec la suite des enquêtes de Murdoch. Les deux épisodes de la soirée affichent une moyenne de 2,4 millions de téléspectateurs, une part d'audience de 10,4%.
Culture Média. Et on commence ce journal des médias par un départ brutal aux médias, la web télé proche de la France insoumise.
Le directeur de la rédaction a été démis de ses fonctions, c'est ce qu'on a appris ce week-end dans le journal Le Monde. Il s'appelle Denis Robert, il avait pris les commandes de la chaîne Info en 2019, après le licenciement retentissant d'Aude Lancelin, qui avait lui-même suivi les départs tout aussi mouvementés de Sophia Chikirou et Aude Rossigneux.
Alors qu'est-ce qui lui est reproché?
Alors c'est là que la question se complique. L'article du Monde laisse entendre que ce départ n'est peut-être pas sans lien avec la nature du contrat de travail de Denis Robert, plus précisément avec une demande de remettre les choses en ordre en termes de droit du travail. En face, la direction assure que c'est l'attitude de Denis Robert qui est en cause. Le patron de l'entité qui emploie la rédaction, Julien Théry, s'est exprimé au Monde. Il a dit « Nous avons décidé de lui demander de cesser ses activités car il a une conception trop classique et hiérarchique de la fonction que nous voulons d'ailleurs supprimer pour travailler de manière plus collégiale. »
Et alors, comment a réagi la rédaction justement?
C'est pas plus clair de ce côté-là, c'est ça le problème. Juste pour information, la rédaction du Média, c'est une dizaine de personnes qui sont réparties entre deux syndicats, le SNJ et la CGT. Côté SNJ, on soutient Denis Robert. Ils ont publié un communiqué demandant à la direction d'arrêter, je cite, de mépriser le droit du travail. De l'autre, les sept membres de la CGT confirment les tensions avec Denis Robert et l'inutilité de sa fonction qui allait donc à l'encontre de leur volonté de créer ce système plus collégial et moins hiérarchique. Denis Robert, le principal intéressé, s'est contenté d'indiquer au Monde qu'il était, je cite, pris de court et sous le choc.
Le film Mignonne, on parle de cinéma, qui continue de faire parler aux États-Unis.
Oui, je vous en parlais il y a quelques jours. L'arrivée du film français sur Netflix mercredi dernier outre-Atlantique a poussé des centaines de milliers d'Américains à signer une pétition appelant le géant du streaming à supprimer le film. Le hashtag Cancel Netflix s'est quant à lui hissé en tête des sujets les plus discutés sur Twitter aux États-Unis jeudi.
Si j'ai bien compris, c'est pas le film qui a posé le problème, c'est l'affiche qui en a été faite et le feuilleton continue.
Voilà, le feuilleton continue, on ne voyait pas trop ce qui pourrait arriver ensuite, mais c'était sans compter sur les Républicains. En pleine campagne présidentielle américaine, le sénateur Ted Cruz s'est emparé du sujet comme d'un épouvantail. Quoi de mieux pour manifester son soutien aux valeurs familiales et son opposition à une société trop libérale que de s'élever contre un film qui montre de la pédopornographie. Alors je vous rassure tout de suite, il n'y a rien de pornographique dans Mignonne, mais ça n'a pas gêné le sénateur, qui était aussi candidat, je le rappelle, à l'investiture républicaine pour la présidentielle 2016. Il a écrit un courrier au ministère de la Justice, il exige une enquête sur la production et la distribution du film. Il faut déterminer si Netflix, ses dirigeants ou les personnes impliquées dans le tournage ont enfreint des lois fédérales sur la production et la distribution de matériel pornographique. Voilà comment conclut Ted Cruz, son courrier au ministère de la Justice.
Ça doit faire beaucoup de publicité au film, non ?
Alors c'est un peu la seule bonne nouvelle dans tout ça. Il y a fort à parier que Mignonne, qui est un petit film français indépendant, serait passé inaperçu aux États-Unis sans cet acharnement. Mais la semaine dernière, il s'est hissé parmi les 10 films les plus vus sur Netflix outre-Atlantique.
Et face à Netflix, justement, Canal+ poursuit sa mue.
Voilà plusieurs années que la chaîne cryptée se transforme en plateforme de streaming et les nouvelles annonces de son numéro 2 ce week-end confirment cette évolution. Dans une interview au Parisien, Gérard Brice-Viret évoque la rentrée de Canal+ et il dévoile un changement majeur dans la façon dont les nouveautés cinéma seront désormais proposées. Jusqu'ici, la mise en ligne des films sur la plateforme MyCanal était calée sur la diffusion de ces films sur Canal+. C'est assez logique si on considère que MyCanal est la plateforme de replay de Canal+. Mais ça, c'est terminé. Désormais, peu importe leur date de diffusion, les nouveautés cinéma seront toutes mises en ligne le vendredi sur MyCanal. Ce sera alors à la chaîne de rattraper sa plateforme, qui devient donc définitivement son produit d'appel. Cette nouvelle stratégie démarrera en octobre avec 5 films mis en ligne chaque vendredi. Et dans la première fournée, les abonnés retrouveront le dernier volet de la saga Star Wars, l'ascension de Skywalker.
Et puis ce soir, un poids lourd du PAF de retour.
Alors les lundis soirs de millions de téléspectateurs sont désormais bookés jusqu'à la fin de l'année. L'amour est dans le pré fait son retour sur M6. 11 hommes et 2 femmes âgés de 37 à 63 ans, tous agriculteurs évidemment, participent à cette 15e édition dans le but de trouver le grand amour. Et dès ce soir, ça va être chaud. Bande annonce.
Qu'est-ce que t'as sur le bras ?
Un tatouage que j'ai fait.
Sous ta main, je peux ?
Oui, vas-y.
Oh là 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 là.
C'est hot, hein ?
C'est récent parce que tu pèles là.
Ouais, il est pas fini.
Ok, allez, je me mets un peu de truc là.
Toi aussi, t'en as beaucoup,
de tatouages. Ouais, partout. Puis j'en ai à l'intérieur un peu aussi.
Ouais.
Ouais.
D'accord.
Voilà.
Oh, il se lèche les lèvres !
Alors vous venez d'entendre le speed dating entre un agriculteur et son prétendant ce soir. C'est la 3e fois qu'un candidat gay vient chercher l'amour dans l'amour et dans le pré. Après 14 ans, l'émission reste la marque la plus populaire d'M6, avec l'an dernier 3,8 millions de téléspectateurs en moyenne. C'est 17% du public et 26% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Et cette 15e saison a un objectif, dépoussiérer l'émission.
Et justement, comment on renouvelle un format comme L'amour est dans le pré ?
Eh bien, en changeant la façon dont on raconte l'histoire. La production Fremantle promet un nouveau style de narration, plus rythmé, pour éviter la lassitude. Il y aura aussi des changements dans la mécanique et on les verra dès ce soir. Vous l'avez même entendu un petit peu dans l'extrait. Cette année, Karine Le Marchand est présente pour les speed dating et elle commente donc les rencontres entre les agriculteurs et les prétendants.
Merci beaucoup Charles Decan, à demain pour un nouveau journal des médias. Dans quelques instants, notre info média du jour, c'est la mini-série Tiens, on reste sur M6, inspirée de l'affaire d'un homme pas si ordinaire que ça, Xavier Dupont de Ligonnès. Son réalisateur Pierre Aknin sera avec nous, à tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
C'est un homme apparemment ordinaire qui a donné son nom à une affaire extraordinaire. Et c'est son nom, Xavier Dupont de Ligonnès. Affaire qui passionne et intrigue depuis près de 10 ans, faut-il le rappeler. On est en avril 2011, le corps de 5 personnes, une famille, 4 enfants, retrouvés enfouis sous la terrasse d'une maison à Nantes. Et le chien, Xavier Dupont de Ligonnès, le père de famille, est depuis introuvable. Beaucoup ont cru le voir dans un monastère du Var en 2018 ou encore en octobre 2019 à l'aéroport de Glasgow. En Écosse, il y a même une personne qui a été arrêtée. Pour ça, c'était pas la bonne personne. Et cet été, le magazine magazine Society a publié une longue enquête sur l'affaire Dupont de Ligonnès. On n'avait pas vu ça depuis Charlie Hebdo. Des records de vente et des ruptures de stock dans la presse écrite. Et demain, c'est une fiction diffusée sur M6 qui sera consacrée à cette histoire hors du commun. Bonjour Pierre Aknin.
Bonjour.
Vous êtes le créateur et le réalisateur de la série Un homme ordinaire diffusée demain soir sur M6. Bande annonce.
Quel pied si on pouvait tous mourir demain ?
La police a trouvé l'horreur.
Regarde, ils sont tous morts. C'est dingue.
Comment vous le dira ? C'est un mari attentionné, un père aimant.
Mais c'est qui ce type ? C'est celui qui les aime et après il les tue.
Je peux disparaître du jour au lendemain aux Philippines pour 30 000 euros, t'as une mort parfaite.
Reprends ses faits et gestes un à un et on saura ce qu'il a fait et où il est.
Il faut absolument que je le coince.
Vous récoltez des éléments strictement réservés à la police dans une affaire gravissime avec un meurtrier en fuite.
Après les meurtres, il aura pu bénéficier de la complicité d'un ou plusieurs tiers.
Putain. Qu'est-ce que tu cherches vraiment ? Je sens que c'est lui. J'en suis sûre.
C'est une fiction librement inspirée, je ferme les guillemets, de l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Qu'est-ce que vous avez changé ?
Sur le fond, on n'a pas changé grand-chose. Hein. C'est une mini-série qui comporte 4 épisodes.
Ouais.
Il y a les 3 premiers épisodes qui sont... C'est une fiction, c'est pas un documentaire. C'est vraiment la différence avec tout ce qui s'est passé d'habitude. Donc, le documentaire, c'est la réalité. Et la fiction, on essaie d'obtenir une vérité.
Alors, vous avez déjà changé le nom.
On a changé le nom, mais personne ne s'y trompe. C'est
ouais.
Ligonnès. Hein.
Vous avez changé la ville.
J'ai changé la ville, oui.
Pour quelle raison ?
Pour aucune raison, comme ça. On a changé, ça aurait pu se passer dans n'importe quelle ville. De Ligonnès était à Nantes depuis 3 ans, donc il n'avait pas d'attache précise dans une ville. Voilà, c'était Lyon.
Et là, ça se passe à Lyon. À part ça, qu'avez-vous changé ? Quelle est votre interprétation ?
L'interprétation, la base n'a pas changé. Parce que tous les personnages, tous les protagonistes du film ont existé.
Bien sûr.
De Ligonnès, le rôle que jouait Millie Deken, qui est une hackeuse, et qui est jouée dans le film par... qui est un hacker, en fait, que j'ai changé en hackeuse. Tout ça est vrai. Tout ça part sur une base de réalité, évidemment, que nous avons fictionné. Par exemple, ce qui est fictionné, c'est la rencontre. Au début, il nous fallait un point d'accroche entre De Ligonnès et ce hacker.
Pourtant, j'ai lu le papier de Society, j'ai lu plein de papiers là-dessus. Le hacker, c'était quoi le rôle du hacker dans l'affaire Dupont de Ligonnès ?
Alors, le hacker, il s'appelait Christophe. Il a créé... Alors, il faut bien se remettre dans le contexte. C'est une époque où Internet commence. On est en 2009-2008. Facebook a été créé en 2004. Et en 2009-2011, ça va de tous les côtés. Donc, il fait du web-slutting. C'est-à-dire que le web-slutting, ça se passe aux États-Unis. C'est des groupes de hackers qui s'occupent d'aller trouver les méchants et les coupables. Donc, pour la première fois en France, un hacker a commencé à ouvrir un compte sur Facebook qui s'appelait Christophe la Vérité. Et là, ça a été la ruée, ça a été la noria. Tout le monde est venu, ils se sont tous mis avec des choses abominables et des choses intéressantes. Et ils ont trouvé des choses. Et l'individu, Christophe, a été condamné à 1000 euros d'amende avec sursis.
Pourquoi vous intéressez à cette affaire dont on a déjà beaucoup parlé. Qu'est-ce qui n'avait pas encore été dit ? Vous êtes lancé dans ce projet il y a combien de temps ?
3 ans.
Donc bien avant l'enquête de Society, qu'est-ce qui n'avait pas encore été dit ?
Bien sûr.
Pourquoi ça vous intéressait à ce point, Pierre Aknin ?
Alors ce qui est intéressant avec la scénariste Anne Badel, c'était le personnage qui nous intéressait. Et la fiction. Dans le documentaire, on est factuel. Dans la fiction, qu'est-ce qu'on fait ? On donne du sang, on donne de l'émotion, et Arnaud Ducret a donné de l'émotion, de la froideur au personnage de Ligonnès.
Vous avez une thèse sur Xavier Dupont de Ligonnès, une hypothèse en tout cas, laquelle est-elle ? C'est tenté qu'on puisse le dire sans trop dévoiler de l'issue de la mini-série.
Écoutez, pour ma part, il est encore vivant, oui, on peut le dire. Mais comment ? Voilà, c'est ce que nous développons dans le film, dans le 4e épisode.
Et ça, vous ne pouvez pas le dire. Vous avez travaillé comment avec la scénariste ?
Avec la scénariste, on a beaucoup travaillé sur Internet, parce que justement, la famille était extrêmement connectée. Lui était connecté sur un site cité catholique, il avait fait plus de 750 messages. La femme était connectée. C'est d'ailleurs Christophe qui a trouvé des choses et qui n'a pas donné à la police. D'ailleurs, et les enfants étaient connectés. Ou sinon, les journaux. D'ailleurs, j'ai rencontré M. Audanger, qui était le frère, mais qui, lui, ne m'a rien dit.
Qui était le frère de qui ?
Le frère d'Agnès.
D'accord. Hein. Mais l'épouse.
Oui, Agnès l'épouse. Mais on est resté. Il n'est absolument pas rentré dans le travail.
D'accord. On va entendre des extraits de votre série. On marque une toute petite pause et on se retrouve juste après ça. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Pierre Aknin, créateur et réalisateur de la série Un homme ordinaire, c'est avec Arnaud Ducret et Émilie Dequesne. Les deux premiers épisodes sont à voir demain soir à 21h sur M6 et les deux dernier et suivant, le mardi d'après, ça sera le 22 septembre, suivi ce soir-là d'un débat présenté par Nathalie Renoux. Dans le téléfilm, le père de famille ne s'appelle pas Dupont de Ligonnès, mais Christophe de Salins. Vous avez quand même gardé la particule, c'est un homme ordinaire qui remplit des constats lorsqu'il a un accident de voiture. Scène de constat à l'amiable avec Anna Rose incarnée par Émilie Dequesne.
J'ai rempli ma partie,
voilà, vous n'avez qu'à en faire autant. Hop. Christophe de Salins, oui je sais, c'est un peu un noir à l'ange. J'ai une autre possibilité, si vous le souhaitez.
Laquelle ?
J'ai un ami à moi qui est garagiste. Il tient une sorte de casse avec des pièces détachées à des prix très intéressants. Ça, à mon avis, ça ne vous coûterait pas trop cher.
C'est gentil, mais je pense que mon assurance va tout prendre en charge.
Oui et non, parce que le malus, vous ajoutez à ça la franchise, à mon avis, à tous les coups, vous êtes perdant.
C'est pas grave, c'est de ma faute, faut que j'assume.
Ce que je vous propose est très honnête, il n'y a aucune magouille. Prenez le numéro de mon ami, ça ne vous coûte rien, je vous assure. Allez-y.
Homme ordinaire, mais il fait pas de magouille, mais quand même des combines. C'est ce que vous vouliez montrer ?
Non, pas du tout. Au contraire, dans cette première scène où il est vraiment sincère, il lui dit c'est bête de perdre un malus, vous avez brûlé un feu rouge, essayez de payer le moins possible. Je crois qu'il est sincèrement honnête avec les gens ordinaires. Ouais. Lui qui n'est pas si ordinaire que ça.
Ah bon, on a appris d'autres choses ensuite. Je parle pas de la tragédie, mais que parfois il avait des prête-noms, des faux noms, plein de choses comme ça.
Bien sûr. Bien sûr.
Il n'était pas non plus totalement blanc-bleu. Mmh. Pourquoi avoir choisi Arnaud Ducret justement parce qu'il a d'habitude un rôle de papa normal.
Alors d'abord, c'est au début, je l'ai rencontré une première fois et en fait, la première fois où je l'ai vu arriver dans un restaurant...
Vous l'avez rencontré dans ce but-là ?
Dans ce but-là, oui.
Alors
pardon.
Pourquoi vous l'avez choisi lui ?
Bah, alors c'est ma fille. C'est ma fille qui me dit il faudrait que tu rencontres Ducret. Je dis bon, mais c'est ouais, bon, peut-être, oui. Et j'ai accepté de le rencontrer, effectivement. Ouais. Et quand il est rentré, mais c'était physiquement. C'est pas qu'il lui ressemblait, c'est qu'il y avait une énergie profonde qui me disait mais c'est lui, il n'y a même pas à insister. Et le repas a exactement concrétisé tout ce que je pensais. Et puis le travail. Le travail, parce que Arnaud a fait un travail formidable. Avec une coach, il a travaillé, on a travaillé ensemble et puis il n'a pas interprété, il a incarné.
Il a travaillé sur quoi ? Avec une coach ?
Sur toute l'intériorité du personnage, sur les possibilités, parce que c'est quand même un personnage protéiforme et qui était un peu complexe.
Vous mettez aussi le doigt, l'accent sur son double américain.
Oui.
Pas de Arnaud Ducret, mais de Xavier Dupont de Ligonnès.
Oui, John List, c'est ce qui m'a donné le déclic pour faire le film. Un jour, j'écoute, c'était sur un journal ou à la radio, je ne m'en rappelle plus, et je vois John List et je vois que ce type-là, il a tué toute sa famille, il est parti, ils l'ont retrouvé 18 ans après. Et les similitudes mais sont absolument énormes entre les deux personnages. Et je me dis, tiens, il y a un double américain, pourquoi pas faire celui français ? Et ce qui était rigolo, il a été mettre sa voiture à Kennedy, à l'aéroport Kennedy, de Ligonnès l'a mis au Formule 1, et il avait une cheville Impala, et dans ses pseudonymes, il se faisait appeler Cheville. Donc il y avait des relations précises, et ça excitait le fantasme et l'imagination.
Cheville, c'est une Chevrolet. Anna Rose, on en parlait tout à l'heure, celle qui a eu l'accident de voiture avec Christophe de Salins, est une hackeuse qui va être fascinée par l'affaire et créer une page Facebook. Ça s'appelle Christophe de Salins Enquête et Vérité pour mener sa propre enquête en parallèle de la police. Extrait.
T'es pas encore au lit ? Tu dors pas ? Qu'est-ce que tu fais ?
J'ai créé un site.
Un site ? C'est quoi cette idée ?
Regarde le nombre de likes. Il n'y a pas que moi, Simon. Les gens ont besoin de comprendre. Regarde.
Quelle horreur. Les flics ont une idée du coupable ?
Le père, Christophe de Salins, c'est le seul qui manque. Pour l'instant, ils n'ont pas d'autres pistes.
C'est le type que t'as vu, là ?
Ça dépasse l'entendement. C'est quelqu'un comme toi et moi, Simon. Un type super sympa, normal. J'arrive pas à y croire.
Vous nous l'avez dit, Pierre Aknin, le personnage d'Anna Rose est librement inspiré d'un cyber-enquêteur qui s'est vraiment intéressé à l'affaire, qui a ensuite été arrêté, condamné à 1 000 euros d'amende avec sursis pour recel et violation de secret de l'instruction. Quel rôle ont joué les réseaux sociaux dans l'avancée ou non de l'enquête ? Est-ce que ça a aidé ou est-ce que cela a entravé l'enquête policière ?
Alors ça, je pense que ça a aidé parce que Christophe, qui est interprété par Émilie Dequesne dans le film, a trouvé, en fait, il est parti piller toutes les boîtes mail de toute la famille. Et il avait les boîtes mail avant, toutes les informations avant. Par exemple, le message quand il dit « on va tous se tuer, demain on peut tous se tuer », c'est Christophe qui l'a tué et qui dans un deuxième
temps... Qui l'a récupéré,
pardon. Ouais. Et qui l'a donné dans un deuxième temps à la police. Donc c'est quelque chose. Ils ont été faire une espèce de grand ménage, j'allais dire numérique, pour essayer d'avoir le maximum d'informations.
Dans son ordi à lui.
Dans les boîtes mail des protagonistes.
D'accord. Mais est-ce qu'ils ont aussi. Ils sont rentrés dans la boîte mail de ce du hacker ?
Je pense pas, non. Je pense que la police n'est pas rentrée dans le. Je pense que la police est restée. Ils pouvaient pas. Alors, il y a des choses qui ont été dites, mais je suis pas certain. Là, je peux pas l'affirmer.
D'accord. Mais d'après ce que vous savez, vous. Parce que vous avez des choses, vous avez rencontré des gens, vous avez
parlé
avec plein de monde.
J'ai rencontré des gens, je sais. Alors, on sait un peu tout. Après, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est le point de vue qu'on y met. C'est le point de vue. Parce que des millions de choses ont été dites, des milliards de choses ont été dites, et ce qui est intéressant, c'est le point de vue. Et effectivement, on découvre des trucs au fur et à mesure. Même j'en découvre encore, quoi.
Par exemple
J'ai découvert que, ce que je vous disais tout à l'heure, que son surnom Chevy,
ah oui.
Il avait l'Impala, qui était son surnom, et que ça s'appelle une Chevy, une voiture Chevy. Ça, je l'ai découvert il y a 3 semaines.
Vous avez fini le tournage il y a combien de temps ?
Il y a un an et demi.
Donc bien avant l'enquête de Society sortie cet été, vous l'avez lu, j'imagine.
Bien sûr.
Qu'est-ce que vous y avez appris ?
Ben, j'ai appris plein de choses, parce que ce qui est formidable dans cette enquête, c'est qu'ils ont un vrai point de vue sur les deux amis. Et donc leur réel point de vue, il y a plein de choses.
Emmanuel et Michel, si
Emmanuel,
je me souviens
c'est
bien
ça. De mémoire. Et il y a un point de vue formidable sur les deux, parce que soudain, on connaît de l'intérieur, d'une manière amicale, ce que moi je donne avec la famille et avec les amis sont croqués, moi, dans mon film, hein. Là, ils ont approfondi les choses et c'est vachement bien.
Ça vous donne envie de continuer ? Ça vous donne envie d'en refaire ?
Non.
À la lumière de ça ?
Non.
Pour quelle raison ?
Parce que c'est fini.
Vous avez tout fait.
Parce que c'est fini, puis ça suffit, quoi. Maintenant, c'est dont acte.
Vous nous l'avez dit, pour vous, Xavier Dupont de Ligonnès est vivant.
Oui.
Mais pour vous, il est où ?
Il est dans un autre pays pour moi. Alors là, on a pris une hypothèse, vous le verrez dans le 4. Est-ce que c'est la bonne hypothèse pour moi ? Il est parti, il est à l'extérieur et je crois qu'il essaie de refaire une vie qu'il a loupée, quoi. En tout cas, qui est un échec.
Sur quoi vous travaillez maintenant, Pierre Aknin ?
Alors, je travaille sur quelque chose, mais je ne peux pas vous le dire.
Ah bon ?
Non.
Pourquoi ?
Parce que si je vous le dis, ça va casser un secret et je vais être embêté.
Il y a du Dupont-Ligonnès dans cette phrase. Merci d'avoir été avec nous. Un homme ordinaire avec Arnaud Ducret et Émilie Dequesne. Les deux premiers épisodes de cette mini-série à voir demain sur M6. Je dis mini, non pas par l'ambition, mais parce qu'il n'y a que 4 épisodes seulement. Et les deux derniers, mardi suivant, le 22 septembre. Ça sera suivi ce soir-là d'un débat à 23h, présenté par Nathalie Renoux. Et là, cette fois-ci, sur le vrai Xavier Dupont de Ligonnès. Merci d'avoir été avec nous, Pierre Aknin.
Merci à vous.
Nous, on revient dans quelques instants avec notre invité média qu'on connaît bien à Europe 1. Désormais, il n'a plus qu'un couloir à traverser, Stéphane Bern. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Bonjour Stéphane Bern.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
Je vous ai vu arriver dans le couloir. Vous présentez pas moins de 4 émissions sur France Télé, le village préféré des Français, le monument préféré des Français, Secret d'Histoire, Si les murs pouvaient parler, je passe sur Laissez-vous guider avec Laurent Deutsch, sans parler des fictions qui cartonnent. Samedi soir, vous étiez devant The Voice Kids, on va en reparler, mais c'est pas tout. Vous venez de faire votre rentrée sur Europe 1 pour une émission d'histoire avec Mathieu Noël. Tous les jours de 16h à 18h, historiquement que vôtre, on va également en reparler. Mais là, ce soir, c'est votre cœur de métier, Secret d'Histoire, consacré à Vauban. J'adore cette musique. Pourquoi lui ? Et qu'est-ce qui vous intéresse chez Vauban ?
Vauban, finalement, fait partie de notre imaginaire collectif dans la mesure où toutes les citadelles...
Pardon, je souris parce qu'avec la musique, j'ai l'impression que je suis devant ma télé en train de vous regarder.
Non, c'est ce soir à 21h sur France 3. Mais ce qui est incroyable, c'est que partout en France, il y a des citadelles. Il avait fait une sorte de ceinture de protection de la France. Et je trouve que ce personnage est incroyable parce qu'il avait... C'était un ingénieur, c'était à la fois un chef militaire. Il est devenu maréchal de France par la volonté de Louis XIV alors qu'il était obscur. Il savait tout faire, cet homme. Il était absolument génial. Il s'était pris aussi des boulets dans la figure, des coups de mousquet. Il avait pas une mine extrêmement réjouissante, parfois. Et puis, il a osé dire des choses à Louis XIV que personne, à l'époque, n'osait lui dire.
Ouais. Et puis, au-delà des ouvrages fortifiés, la citadelle de Besançon, l'île Briançon, on apprend qu'il est en quelque sorte l'inventeur des datas, du recensement.
Exactement.
Il est précurseur sort de ce qui va devenir les impôts, la dîme royale.
La dîme, voilà. Et c'est lui qui a la première fois l'idée, alors qu'il était révolutionnaire, que chacun devait payer un impôt sur le revenu, y compris l'Église et la noblesse.
Et y compris les aristocrates.
Mais exactement.
Qui ne payaient rien.
C'est les deux catégories, si je puis dire, les deux États qui ne payaient pas l'impôt, c'était la noblesse et l'Église.
Clergé.
Et lui a proposé que tout le monde paye l'impôt.
Alors, c'est un immense ingénieur. Il a appris les mathématiques. Il a appris les mathématiques assez jeune, mais pas comme nous, avec un oncle qui était abbé.
Afin de parfaire son éducation, Sébastien est envoyé auprès d'un oncle dans la petite ville fortifiée de Montréal.
Il a été élevé par un abbé qui lui a appris l'art des mathématiques, de la géométrie.
On apprend les mathématiques, on apprend la géométrie en prenant des exemples qui sont militaires. Donc les gamins à l'école, lorsqu'ils font des devoirs de géométrie, c'est des applications déjà d'installer un canon qui va tirer sur tel angle, telle distance, etc.
Il est formé déjà à l'exercice du dessin de fortification, du dessin de géométrie, mais très vite du dessin de fortification.
Et là, on comprend le sens du titre de l'émission Secret d'Histoire, parce qu'il y a des choses qu'on ne savait pas sur Vauban. J'ai appris grâce à vous l'origine de l'expression battre la chamade. Vous en souvenez ou pas? Vous l'avez tourné quand cet épisode?
J'ai tourné il y a quelques mois, oui.
Ah, je me suis dit, ça se trouve, il ne le sait plus du tout. Quand une ville était prise,
oui.
Parce que Vauban, au départ, avant de construire des ouvrages de fortification, il s'occupait de prendre des villes.
De prendre des villes. La poliorcétique, c'est l'art de prendre les villes ou de les défendre.
Oh, dis donc,
c'est un terme, je ne peux plus le replacer
dans, hein.
Dans un dîner, ça ne marche pas.
Redites-le pour les gens qui
jouent. Poliorcétique. La poliorcétique, c'est l'art de prendre ou de défendre des citadelles imprenables.
Vauban était passé maître dans cet art, au point que Louis XIV emmenait sa cour, par exemple, devant le siège de Maastricht, que Vauban a pris en quelques jours, et les dames de la cour étaient là, très impressionnées. Et quand une ville était prise, que les habitants capitulaient, ils donnaient des roulements de tambour. Ça voulait dire que la voie était libre, l'envahisseur pouvait prendre possession des lieux, et on entendait ceci.
Battez la chamade.
Voilà. Et ce roulement de tambour s'appelle la chamade. D'où battre la chamade quand on a le cœur qui bat ça. La chamade.
Et j'espère aussi que ça vous arrive souvent.
Comment?
Les uns les autres.
Bah, toujours. Chaque émission. Vauban ne s'est pas toujours appelé Vauban.
Non. Sébastien Leprestre.
Ouais, exactement.
Maréchal de France, il est Vauban avec une très jolie terre. Et d'ailleurs, j'ai tourné toute l'émission au château de Bazoches, qui est vraiment un endroit incroyable. C'est dans le Morvan. C'est pas très loin de Paris. À 2h30, il faut vraiment y aller.
Ils ont besoin de vous, le château de Bazoches.
Oui.
Parce que la façade, elle est toute neuve. Et quand on filme avec le drone de l'autre côté, ça tombe un peu en décrépitude.
C'est pour ça qu'il faut vraiment... vous avez le patrimoine, c'est aussi mon affaire.
Non, mais vous avez eu l'honnêteté de montrer les deux côtés du château.
Oui,
je trouve ça très bien.
Oui, parce que ça n'a pas de sens, sinon. Et puis, on est dans un lieu, c'est Secret d'Histoire, on montre tout.
On est d'accord. Le grand-père possédait le château de Vauban, dans le Morvan, qui était plutôt une très grande ferme, c'est pas vraiment un château. C'était le fief de la famille depuis le milieu du XVIe siècle. Et c'est de la noblesse récente. Et vous vous permettez, Stéphane Bern, de citer Saint-Simon.
Toutes ces splendeurs transmises de génération en génération ne doivent pas nous faire oublier que Vauban appartenait à la toute petite noblesse de province. Lors de l'acquisition du château, les Leprêtre, sa famille, ne sont nobles que depuis 3 générations. Au point que pour évoquer les origines du célèbre maréchal de Vauban, qu'il admire pourtant, le duc de Saint-Simon, célèbre mémorialiste de Versailles, ne dissimule pas son dédain. Petit gentilhomme de campagne, tout au plus. Rien de si court, de si nouveau, de si plat, de si mince.
Stéphane, quand vous dites qu'ils sont nobles, ils ne sont nobles que depuis 3 générations, vous faites presque une grimace. 3 générations, c'est pas assez pour vous.
Mais c'est pas ça, c'est que je me moque, je me prends pour Saint-Simon en citant Saint-Simon. Vous savez, la seule noblesse que je respecte, c'est celle du cœur et de l'intelligence.
Oh, c'est tellement joliment dit. Vauban voyage partout. En 50 ans, il parcourt toute la France, près de 150 000 kilomètres. Un humaniste, il est, après la révocation de l'édit de Nantes, il s'inquiète du sort des protestants. Oui. Il écrit au roi, il est le seul à pouvoir parler librement et franchement à Louis XIV.
Franchement, il lui parle. Et d'ailleurs, à un moment, on a cru qu'il était dans la disgrâce de Louis XIV, parce que c'est vrai que... Et pour autant, Louis XIV lui a rendu un très bel hommage après sa mort en disant que c'était un fort honnête homme, un bon homme, un bon Français, quelqu'un qui l'avait bien servi. Non, Louis XIV aimait beaucoup Vauban, et c'est vrai que Vauban profitait de cette situation, de sa position, pour dire au roi un certain nombre de choses, notamment sur l'égalité. Au fond, je crois qu'il était en entrée, il est déjà un précurseur du siècle des Lumières. Il est un précurseur notamment sur l'humanité, c'est des choses qu'on n'avait pas, sur les impôts par exemple. Il voulait qu'il y ait une certaine égalité face à l'impôt.
Et il a inventé la cochonnerie, je ne vous dis pas ce que c'est, mais ce n'est pas du tout ce que vous croyez. Et là, c'est absolument magnifiquement égalitaire et même social, si je peux m'autoriser cet anachronisme. Vous restez avec nous, Stéphane Bern. On a encore plein de questions à vous poser. Le cœur bat la chamade. On se retrouve tout de suite après ça.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Stéphane Bern, qu'on retrouve tout à l'heure à 16h avec Mathieu Noël, dans Historiquement que Vôtre, à 16h sur Europe 1. Et ce soir, sur France 3, un nouvel épisode de Secrets d'Histoire consacré à Vauban. On va passer à une autre de vos activités, la fiction. Samedi, Meurtre en Lorraine a cartonné, alors que c'était une rediff. Vous étiez en tête devant The Voice Kids, ça vous fait sourire. Vous connaissez, vous avez les chiffres en tête ?
4,2 millions, je crois, à peu près. 21,6%
de part d'audience. Et c'est pas tout, parce que vous avez aussi fait de l'audience la veille.
Oui, avec le documentaire sur la DLTV sur Annie Cordy. Je voulais vraiment qu'on rende hommage à cette chère Annie Cordy qui, voilà, c'était une amie et je trouvais bien qu'on lui rende hommage. Et c'est vrai que France 3 était aussi leader dans le documentaire. Je sais que ça paraît bizarre de dire oui, on est leader les premiers, mais bon, après tout, la concurrence est pour toutes et je suis ravi quand on fait des émissions de qualité sur le service public et qu'elles sont regardées par les téléspectateurs. Parce qu'on ne peut pas dire que la culture n'intéresse pas les gens, bien au contraire. Alors, il y a la manière de la faire, il faut faire une culture gourmande, généreuse, pas docte et pédante ou prétentieuse. Moi, c'est ce que j'essaie de faire. Je ne me prends pas pour ce que je ne suis pas. Je ne suis qu'un raconteur d'histoire. Et donc, ce qui m'a fait plaisir, oui, c'est pour la fiction. Vous avez raison, Samedi Histoire, parce que c'est ma nouvelle casquette.
Est-ce que vous vous prenez pour un comédien ?
Je me prends pour rien. On me prend maintenant pour un comédien, mais moi, je me prends pour rien. Il se trouve que j'adore ça. J'adore jouer la comédie. J'ai tourné tout l'été, comme vous le savez, pour une nouvelle fiction pour France 3 qui passera l'année prochaine.
Mais c'est un
pour
unitaire,
l'honneur d'un
ça.
Fils, c'est un unitaire. Pour l'amour d'un fils, j'ai tourné aussi dans un épisode de L'Art du Crime avec Elsa Bennett et Hippolyte Dard. Et j'ai adoré ça parce que je me suis mis cet été en vacances de Stéphane Bern. Et c'est très agréable.
Ah oui.
Vous êtes quelqu'un d'autre.
Ah oui.
J'étais le,
non mais
le
déjà, Jean-Marc, vous parlez de vous la troisième personne.
Non mais c'est pour vous faire rire, Philippe. Sinon, je vous assure, je reste à ma place. Hein. Alors, c'est ma devise, je reste à ma place pour éviter qu'on m'y remette.
Mais il y a vraiment une nouvelle série dont vous allez être le héros, Stéphane Bern ?
Il paraît, oui.
Ça va s'appeler comment ?
Je ne peux pas trop en parler. Alors, parce qu'on va tourner, au printemps le premier épisode.
Mais en gros, sans tout dévoiler, quel rôle de personnage vous allez incarner ? Quel genre ?
C'est un juge qui se rend compte qu'il a commis beaucoup d'erreurs et qui va redevenir avocat pour corriger des erreurs judiciaires. Et je trouve qu'au fond, je monte un peu. J'ai commencé comme lieutenant de gendarmerie, vous l'avez vu samedi dernier. Dans la prochaine fiction, pour l'honneur d'un fils, pardon, je suis un commandant d'escadron de drones, donc je suis un militaire.
Ouais.
J'adore jouer les militaires, j'avoue, parce que d'abord, au moins, même si vous ressemblez à rien, ce qui est mon cas, au moins ça vous donne un peu d'allure.
Il y a l'uniforme.
Et l'uniforme. Et puis ensuite, plutôt dans le monde judiciaire. Je remercie vraiment Anne Holmes, qui est une femme extraordinaire, qui est la directrice de la fiction de France Télé, et qui croit en moi, et elle me le dit, elle m'encourage, et en même temps, elle me fait bosser dur,
et
j'adore ça.
Ouais, et qui fait aussi des miracles sur France 3.
Ah bah oui, ça cartonne
de manière absolument incroyable.
Donc, j'étais content pour
elle. Mais
vous
pourriez devenir comédien, c'est-à-dire jouer des rôles à contre-emploi, vous pourriez jouer un punk à chien.
Mais pourquoi pas ? Écoutez, j'ai joué au théâtre, personne. Ce qui est drôle, c'est que dès que vous êtes animateur télé, que vous faites de la fiction à la télé, les gens posent des questions sur votre capacité à jouer. Alors que quand j'ai joué au théâtre plusieurs fois, avec succès d'ailleurs, numéro complémentaire de Jean-Marie Chevret pendant un an, aux côtés de Francis Perrin et d'Isabelle de Botton, où là j'ai joué mon spectacle, Vous n'aurez pas le dernier mot, pendant d'abord au théâtre Montparnasse, puis au théâtre du Palais Royal, qui sont quand même pas des scènes moindres, vous voyez. Les gens n'ont pas posé de questions, et là je vais continuer la tournée avec le spectacle. Et je suis ravi de le faire.
Peut-être parce qu'avec la télé, on passe du millier au million. et qu'il y a beaucoup plus de
vrai,
gens.
Oui, c'est vrai, tout d'un coup, tout prend plus d'importance. Mais j'adore faire de la fiction, et j'aime bien aussi présenter mes secrets d'histoire, ou comme le monument préféré des Français, que vous verrez à la veille des Journées du patrimoine, vendredi prochain, aussi sur France 3, parce que je pense que les Français aiment leur patrimoine.
On va parler de patrimoine, je voudrais qu'on dise un mot de radio. Vous êtes donc débarqué depuis la rentrée sur Europe 1, vous êtes en compagnie de Mathieu Noël, c'est du lundi au vendredi, de 16h à 18h, ça s'appelle Historiquement Vôtre. On va entendre une sorte de bande-annonce.
Bonjour à tous, je suis Mathieu Noël, vous écoutez Historiquement, je vous le confirme, pas besoin de test ADN.
Bonjour à tous, moi c'est Stéphane Bern.
Ah oui.
Et en fait, je suis vraiment enchanté de passer les deux prochaines heures en votre compagnie pour vous présenter, comme chaque après-midi, une insolite brochette.
Une brochette de quoi vous mettez en appétit, Stéphane?
Oui, alors chaque après-midi, je vous l'explique, historiquement vôtre, c'est trois personnages complètement différents.
Ah, c'est ça un peu le concept.
Issus de trois époques fort éloignées, oui, mais qui partagent un point en commun. Aujourd'hui, trois gugus pas piqués des hannetons, comme on disait dans ma jeunesse.
C'est ça d'avoir grandi sous Pompidou.
Ah bah oui, ça fait mal d'ailleurs.
C'est très drôle, mais j'avoue qu'on n'a pas tout bien compris. C'est quoi le principe de l'émission?
Le principe, vous avez trois personnages de trois époques différentes, deux dont je fais le récit, qui ont un point commun, mais qu'on ne soupçonne pas.
Par exemple, un exemple de point commun.
Bah, par exemple, là, pour dans quelques jours... Non, c'est des inventeurs qui sont morts de leur invention. Vous voyez, vous avez d'un côté, par exemple, M. Andrews qui a inventé le Titanic et qui est mort le jour de la première traversée.
Ah mince, ouais.
Marie Curie qui a inventé radium, etc. Elle est morte, évidemment.
D'avoir bu de l'eau radioactive tous les soirs.
Exactement. Et puis, troisième, c'est l'inventeur de Segway. Vous savez,
Les petites trottinettes.
Oui, mais c'est trop proche.
Il s'est tué sur un Segway.
Exactement.
Qu'il avait inventé lui-même.
C'est une idée complètement fou, complètement folle. Vous avez trois personnages qui n'auraient jamais dû se croiser et qui se rencontrent dans Historiquement Vôtre.
Pardon de vous dire ça, mais vous êtes un peu tordu comme gars. Pendant le confinement, on s'était parlé, vous étiez en quotidienne chez Les Rouges, pour ne pas les citer, nos confrères d'RTL, et vous aviez dit que vous vouliez lever le pied, arrêter la quotidienne en radio. Et vous voici en quotidienne en radio.
Oui, mais alors, avec un principe, et c'est très honnête, c'est une émission d'histoire qui n'a rien à voir avec l'actualité. Donc parfois j'enregistre. Voilà. Ouais. Donc ça donne une vraie liberté. Ça permet de pouvoir faire mes tournages en dehors des week-ends.
Le loto du patrimoine, c'est bientôt?
Oui,
c'est
ça a commencé déjà. Ouais. C'est-à-dire qu'au fond, il y a les tickets de grattage à 15 euros, puis il y a les bons de tirage à 2,20 euros.
Ouais.
Il y en a pour toutes les bourses. Il y a 5 tirages d'ailleurs, et puis des jeux de grattage qui vont durer jusqu'à ce que tout soit vendu. Mmh. On espère récolter 30 millions d'euros.
30 millions. Pour ceux qui pensent que le patrimoine, c'est une lubie de vieilles personnes nées sous Pompidou, j'aimerais que vous donniez les chiffres du patrimoine à l'échelle du pays, parce qu'économiquement, c'est pas rien.
C'est pas rien. C'est 35 000 artisans qui vivent ou meurent de cela, parce que pendant le confinement, ils n'ont pas eu de travail. C'est des auto-entrepreneurs, donc il n'y a pas de chômage partiel pour eux. C'est 500 000 emplois directement impactés. Je pense aux guides conférenciers, notamment, qui n'ont plus rien. Et pour certains, ils pensent à changer de métier parce qu'ils n'ont plus de moyens de subsistance. Donc le patrimoine, on pense toujours aux vieilles pierres.
Exactement.
Mais c'est les vieilles pierres. Ben non, il y a des gens derrière. J'en parlais avec Ken Follett, qui est un type merveilleux, qui dit derrière le patrimoine, c'est des aventures humaines. Donc il ne faut jamais oublier les femmes et les hommes qui sont derrière ces pierres.
Et c'est 7 points pour les gens qui sont les plus orthodoxes
du PIB.
7 points de PIB.
C'est beaucoup plus que c'est autant que l'automobile, vous voyez. Alors on est toujours là à faire des plans pour l'automobile, mais le patrimoine, ça compte, ça fait vivre des femmes et des hommes.
Voilà.
Et puis donc, on se bat pour le patrimoine. Et donc, les monuments, vendredi, alors franchement, je suis très fier de cette émission. Ça fait 5 ans qu'on l'avait arrêtée.
Ouais.
Depuis qu'Arras avait été monument préféré des Français. Et là, quel sera le monument que les Français ont élu? Ben, nous le saurons vendredi à 21h sur France 3.
Vous êtes également annoncé sur Paris Match. Vous allez faire quoi à Paris Match?
Bah écoutez, j'ai commencé par faire un hommage à Annie Cordy.
Bon.
Et je vais écrire Au fil de l'eau. Voilà, je suis revenu. Vous savez, c'est une nouvelle vie qui s'ouvre à moi.
Mais oui, je vois.
Europe 1, Paris Match, bon, c'est la même famille. Mmh. J'ai donc quitté, après 32 ans, Le Figaro. C'est pas rien de quitter. J'avais le même job depuis 32 ans, vous imaginez. J'ai commencé à m'encrouter. On a besoin de remettre son titre en jeu. On a besoin de se mettre de nouveaux défis. Et je suis heureux de les faire sur Europe 1.
C'était vous le monument à rénover alors?
Bah écoutez, en tout cas, j'ai les crèmes anti-rides. Ça sert. Et pour le reste, vous savez, je me shoote à la passion, moi. J'ai rien besoin. J'ai besoin d'être passionné. Et je vous assure, avec Mathieu Noël, on s'amuse comme des fous dans Historiquement Vôtre tous les jours.
Merci beaucoup, Stéphane Bern. Ça, c'est la musique d'Historiquement Vôtre que vous reconnaissez. Secret d'histoire, Vauban, ce soir sur France 3 et tous les jours, donc tout à l'heure à 16h sur Europe avec Mathieu Noël. Merci Stéphane Bern d'avoir été avec nous, Culture Média.
Merci beaucoup.
Continue après le rappel des titres de 10h, on va recevoir Eva Rock pour le zapping du lendemain, Bertrand Chameroy pour son écran de veille consacré au retour de 20h30 le dimanche. La mère parfaite est une connasse, c'est pas moi qui le dis, ce sont nos invités à suivre, Anne-Sophie et Marie-Aldine Girard. Leurs livres se sont déjà vendus à plus de 2 millions d'exemplaires. Et puis dans Les Indispensables, un roman sur la crise de la cinquantaine et une série sur la banlieue, mais sans les clichés habituels. À tout de suite.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.